La position du bateau, le site est correct. Mouillage, l'embarcation c'est fait. Pavillon, marque de manœuvre restreinte. L'échelle est en place.
Dans ce cordon ombilical, de l'air, de l'électricité, le scaphandrier travaille au fond de l'eau, dirigé et surveillé depuis la surface.
En immersion.
Il faut donc répéter les gestes encore et encore, assimiler les procédures de décompression. Le but, créer des automatismes.
Plonger dans l'actualité de la Lozère.
Pour les journées du patrimoine, nous sommes au hameau de la Croze, un hameau avec à peine une dizaine de maisons, entretenues, préservées par une grande famille depuis des générations. Le rendez-vous est donné à 10h au bord de la route et je suis accueillie par l'un des guides du hameau.
Ah, moi je suis un ami de la famille, à moitié aveyronnais quand même et lozérien, puisque je suis originaire de Marvejols. Je suis guide depuis des années.
Vous, ça fait combien de temps que vous êtes guide, en tout cas pour ici ?
Oh, écoutez, je connais cette famille depuis plus de 40 ans, donc vous voyez, je crois que je n'ai pas loupé beaucoup de journées du patrimoine.
On avance tranquillement dans la forêt et on arrive au pied du Tarn. Des barques nous attendent.
C'est la seule manière d'accéder, ou alors il faut monter là-haut et descendre par des chemins, et ça vous prend au moins 2 heures. Il faudrait avoir des ânes pour les, vous voyez,
ah oui.
Pour les bagages.
Oui, la barque, c'est bien alors.
La barque est très bien.
Bonjour, donc, monsieur, vous allez où ?
Je repars.
Bonjour.
Vous venez, venez vous asseoir. Merci, perchiste.
Après notre traversée en barque, il suffit de faire quelques pas pour se retrouver face à ce hameau secret. Yves de la Romiguière fait le tour du propriétaire.
Bonjour, je suis Yves de la Romiguière. Je suis un des 19 propriétaires de la Croze et je suis le gérant de cette société familiale.
Il retrace avec passion l'histoire de sa famille et comment ses grands-parents ont réhabilité ce hameau caché en flanc de montagne.
On est à la Croze devant à peu près 1000 ans d'histoire, en tout cas 1000 ans d'histoire certaines, mais ça a certainement commencé avant. Replaçons les choses dans le contexte. Pourquoi 1000 ans ? Parce qu'on est en 2022, ça je n'apprends rien à personne. Mais on parle de l'abbaye de la Croze comme abbaye, possession de l'abbaye Saint-Victor de Marseille au XIe siècle. Donc, qu'est-ce qu'il y avait au XIe siècle ? On ne sait pas, mais la Croze est nommée. Si c'est nommé, c'est qu'il y a quelque chose. Au XIIe siècle, les gorges du Tarn se couvrent d'églises. Donc, on apprend l'art de la maçonnerie, l'art de l'architecture, et on peut imaginer que, dès le XIIe siècle, un certain nombre de gens transforment leur habitat et commencent à construire en pierre. Mais vous imaginez bien qu'en 1000 ans, les choses se sont bâties, démolies, reconstruites, etc. Et cette maison est du XVIIe siècle. On le sait parce qu'elles sont datées. Vous avez là, au-dessus, ça ne se voit pas très bien, surtout sans lunettes, mais vous avez J.A. 1655. Donc 1655, on est sous Louis XIV. Hein. Et là, J. Almeras. 1670. Donc le même Jules Almeras, en 15 ans, construit deux grosses maisons avec chacune 2 voûtes superposées. On est sur un habitat paysan puisque vous avez des bergeries en bas et ce paysan donc a les moyens de construire 2 grosses maisons en 15 ans. Séduit mes grands-parents quand ils sont descendus. Ils ont descendu les gorges du Tarn, ils étaient jeunes ménages. Ils habitaient Paris à ce moment-là, mais mon grand-père est né à Millau. Donc en fait, il est revenu voir ses parents et il a emmené sa jeune femme faire une visite des gorges du Tarn. Et donc, ils sont arrivés ici, ils ont fait la descente en barque. Et quand ils ont vu cette maison, voilà, ils ont vu ce meneau, hein, cette fenêtre avec une croisée. Et ils ont dit, mais c'est ravissant, et est-ce qu'on peut s'arrêter pour aller voir ? Donc les bateliers les ont arrêtés, ils sont arrivés ici, et il y avait là, dans cette maison, la dernière famille qui habitait. Cette maison-là, qui a 3 pignons, Donc en fait, il y avait une famille de 10 enfants, la famille Gall, qui étaient les derniers habitants de la Crause. Tout le reste était abandonné. Mes grands-parents ont discuté avec les Galles, avec lesquels tout de suite ils se sont bien entendus. Enfin, ils ont été aimantés par le lieu. Et ils ont cherché à acheter ça, cette première maison. Et ils ont dû mettre d'accord des héritiers qui n'étaient pas du tout d'accord entre eux. Mais ils ont réussi finalement à les mettre d'accord. Ils ont réussi à racheter. Et ils n'avaient pas l'intention d'acheter autre chose puisque ma mère était fille unique. Ils n'avaient évidemment pas l'intention d'acheter un hameau entier pour une seule fille. Donc, c'est simplement les gens du pays qui sont venus le voir les années suivantes en disant « Monsieur Monestier, j'ai une maison à la Crause. Est-ce que ça vous intéresserait de la racheter ?» Et alors, il leur a dit « Écoutez, il s'est dit, au fond, ça me fera des pierres. Si j'ai besoin de faire des travaux là, je prendrai les pierres. » Et puis, quand il a eu les deux maisons, il s'est dit « Non, je ne vais quand même pas démolir une maison pour en bâtir une autre. Ça n'a pas de sens. » Et il a ménagé les deux. Et puis, progressivement, il a acheté l'ensemble et aménagé. La dernière maison qu'il a rachetée, c'est la maison Gall, puisque quand Madame Gall est morte, les enfants sont venus le voir en lui disant « Monsieur Monestier, le meilleur service que vous puissiez nous rendre pour qu'on puisse faire le partage, c'est de nous racheter la maison. » Alors c'était très culotté de la part de mes grands-parents, parce que imaginez-vous qu'il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de téléphérique. Le téléphérique, c'est eux. Quand il fallait porter des matériaux, c'était à dos d'homme. Il y avait souvent un mulet ou un cheval qui était avec sa charrette qui aidait, mais c'était quand même assez difficile. Ils ont eu ce culot-là, et nous en bénéficions. Donc maman a eu 5 enfants, moi je suis le dernier, ma sœur est la seconde. Et lorsque maman est morte, on a décidé de garder ça en famille. Et aujourd'hui, il y a 19 propriétaires de la Crause et il ne peut y en avoir pas plus de 25. La Crause, c'est vraiment un patrimoine pour vivre quelque chose en famille, de fort, et c'est ce que nous essayons de faire. Donc, comment sont bâties ces maisons ? Comme vous le voyez, autour, vous n'avez pas de gros chênes et pas du tout de châtaigniers. Donc, il n'y a pas de bois de charpente. Donc, on ne peut construire que pierre sur pierre. Et puis, une fois qu'on arrive en haut, on met des pierres plates qui couvrent, qui font la toiture. Toutes les maisons sont bâties comme ça. Et sur le schéma suivant, en bas, une bergerie. Puis, un deuxième étage de voûte beaucoup plus élancé. Et cet étage de voûte est coupé en deux par un plancher. Et ce plancher est fait en pin, en résineux du coin. Et donc la partie haute, c'est la grange à foin, si vous voulez. Et la partie centrale, c'est l'habitat de toute la famille. Et quand il y a plus d'enfants, on les met au grenier avec le foin parce qu'il y fait bien chaud. Si vous voulez bien me suivre, on va aller derrière. Alors je reviens à la Crause, aux toitures que vous pouvez voir de près ici. Donc vous voyez, évidemment il y a des couches homogènes en épaisseur, mais vous voyez qu'il y a une grande variété d'épaisseur d'une couche à l'autre. Parce que la lauze est un matériau naturel, donc il n'y a pas deux couches de pierre de la même épaisseur. Nous sommes sur une aire à blé, une aire à battre le blé. Vous voyez qu'il y a des grandes dalles, bon, il y a beaucoup d'herbes là. Et ces deux bâtiments, qui n'ont pas de cheminée, comme vous le voyez, servaient de grenier à blé. Si vous voulez, ce que ça intéresse, rentrez, vous verrez donc cette voûte, mais vous verrez d'autres voûtes. Attention, la porte est très basse, donc il faut se cogner. Elle est aussi basse à l'aller qu'au retour. Hein. Et nous, ça nous sert de chambre. Voilà, écoutez, on va aller un peu plus loin. Et je ne suis pas trop long. Je ne vous ennuie pas ?
Non.
Vous avez vu les échafaudages ?
Oui.
Bon, regardez ça, vous voyez ?
Oui.
Alors ça, c'est des joints de façade qui se sont dégradés. Derrière, vous avez des trous entre la voûte et le mur. Tout ça se déchausse progressivement. Et c'est pour ça qu'on a entrepris de refaire systématiquement toutes les façades. On refait cette année 9 façades. On injecte sous pression un mélange de chaux et de sable pour boucher toutes les cavités et faire reprendre en masse l'ensemble. À ce moment-là, les pierres ne bougent plus et vous êtes reparti pour 300 ans. Et à l'époque, il n'y avait aucune documentation pour savoir comment s'y prendre. Et en fait, ce qu'ils ont fait finalement, c'est que Ils se sont dit, on va respecter les matériaux, on va respecter les principes architecturaux de la Creuse. Et toute la rénovation a été faite dans cet esprit-là, ce qui fait que c'est particulièrement harmonieux. Quant à cette maison, eh bien, ils se sont retrouvés avec une porte de communication intérieure en haut, une en bas. Il fallait bien les transformer pour que ça ait l'air d'être des portées, des fenêtres extérieures. En bas, ils se sont dit, mais à la Creuse, il y a des portes arrondies. Donc, on va aller chez un antiquaire, acheter une porte ancienne. Donc, vous avez cette belle porte qu'ils ont achetée et ils ont fait tailler l'entourage de pierre autour sur un modèle de la Creuse. Et vous avez l'impression qu'elle a toujours été là. Voilà, entrée. Je vous ai expliqué. En dessous, bergerie. Là, on est dans l'étage d'habitation. Au-dessus, vous avez une grande voûte. Là-haut, c'est le grenier où on met le foin et les enfants. Et ici, vous avez donc la pierre d'évier. Et ici, vous aviez une cheminée qui a été abattue. Donc ça, c'est la maison des filles. Donc les filles sont... Ah mais alors, elles sont une quinzaine hein, en pleine saison. Entre ici et en haut. Elles sont une quinzaine. Voilà, on va ressortir. Bon, dans cette maison est né un général d'Empire et a logé une présidente des États-Unis. En fait, le général d'Empire, c'est le général Vernet, qui est né ici. Et la présidente des États-Unis, c'est donc Jacqueline Kennedy. Et donc, venue quand elle s'appelait Jacqueline Bouvier. Et en fait, c'était une amie d'une de nos cousines qui a appelé mes grands-parents en leur disant « Écoutez, j'ai une amie américaine à qui je fais visiter l'Europe. Ça nous ferait plaisir de venir à la Creuse. Est-ce que vous nous accueilleriez ?» Alors, ce qui est le plus touchant, c'est qu'on reçoit un appel des bateliers. Nous n'étions pas là, c'était un peu hors saison, mais j'avais une nièce qui était là avec des amis. Et ils étaient partis à la messe et un de ses amis était resté. Et il reçoit un appel des bateliers des Gorges du Tarn qui disent « Voilà, monsieur, Jacqueline Kennedy veut faire la descente en barque et voudrait s'arrêter à la Creuse. » Et il dit « Moi, je suis le pape. » Parce qu'il n'y a pas cru. Et puis elle dit, mais non, c'est tout à fait sérieux. Et effectivement, maman l'a eu au téléphone et lui a dit, mais Jacqueline, bien sûr, vous pouvez venir à la Creuse, mais ça nous ferait vraiment plaisir que vous reveniez quand on y est et je vous invite. Elle dit, vous savez, Claude, ce ne sera pas possible. Elle est morte 2 mois après. Donc en fait, cette femme qui avait vu toutes les merveilles du monde a voulu revenir à la Creuse, marcher dans la Creuse 2 mois avant sa mort. Quand même assez émouvant. Bon, on va rentrer dans cette maison. Ah. Regardez cette porte élancée, ça va. Je ne sais pas, moi ça m'évoque une porte de chapelle. Voilà, entrée. Donc comme vous le voyez, là on a accès, on voit tout de suite la voûte. Il n'y a pas le plancher. Le plancher, vous devez imaginer que le plancher était à la hauteur de la poutre. Je voudrais vous attirer votre attention sur cette cheminée, parce que cette cheminée, comme vous voyez, est travaillée. La cheminée paysanne classique, elle est purement fonctionnelle. Là, vous avez des pierres sculptées qui font, et vous avez un bandeau sculpté. On n'est plus dans le fonctionnel, on est à la gloire de Dieu. C'est très vraisemblablement une cheminée construite par des moines. Et celle-là, pour moi, c'était, est-ce qu'on est dans une ancienne salle de chapitre? Est-ce qu'on est dans un ancien réfectoire? Je ne sais pas, mais on est certainement dans la partie la plus ancienne de la Creuse. Voilà, on va sortir et descendre à gauche. Attention, l'escalier est quand même raide. Non, j'ai jamais été... Vous devez imaginer qu'ici, il y avait une maison. Et donc, toutes les pierres étaient noircies et ce n'était pas récupérable. Donc, mes grands-parents l'ont fait écrouler et remonter le niveau et construit cet escalier pour rejoindre le niveau du sol. Autrefois, on partait du sol en pente pour aller jusqu'aux bergeries qui sont là. Donc là aussi, ça, cette maison, les quatre façades vont être refaites. Une dizaine de lieux que la Fondation du patrimoine soutient. Et cette année, ils ont décidé, parmi les autres, de soutenir les travaux du hameau de la Crause. Et donc, ils ont organisé un appel à dons pour nous aider dans les travaux de la Crause. Et nous, ça nous permet d'accélérer, parce que là, vous voyez, par exemple, la tranche de cette année, ça représente 28 000 euros de dépenses, et ça suit une tranche de 50 000 euros il y a un an et demi. Alors, vous pouvez aller là, et moi, je vais probablement être happé par un deuxième groupe. Je suis content d'avoir fait cette visite avec vous. Bon, et puis, profitez de la Crause, baladez-vous, hein, vous n'êtes pas obligé de repartir. Hein.
Après plus d'une heure et demie à travers les maisons en pierre, les visiteurs sont conquis.
J'ai trouvé très agréable, puis on sent que ce monsieur est passionné, donc ça bonifie le plaisir qu'on a à visiter des sites comme ça. Moi, en plus, je suis les vieilles pierres, c'est une passion. Donc.
Et vous connaissiez la Crause avant
De la route. Parce que j'ai vu que aujourd'hui c'est les journées du patrimoine. On voyait, on disait, ah, c'est joli, mais on n'avait jamais pensé à venir parce que je ne pensais pas que ça se visitait, quoi, en fait.
Pour nous, c'est une aventure incroyable de la part d'une famille qui s'investit complètement, qui arrive à garder sa cohésion et qui entreprend des projets de réhabilitation qui paraissent pas réalisables au premier abord. Donc je crois que c'est une foi. Je trouve que c'est vraiment une très très belle aventure familiale.
Bon, c'est vrai que moi je fais également des travaux de réhabilitation là où je suis. Donc je suis assez sensible, hein, aux travaux qui ont été faits. Et je reconnais que oui, c'est un investissement très important. C'est un travail de Romain, voilà.
Il aurait disparu ce village, donc c'est incroyable de réussir à faire vivre. Non, voilà, ça n'existerait plus.
Encouragé, c'est vrai, c'est très bien.
Alors oui, c'est important de faire visiter parce qu'on considère que, bien sûr, on est propriétaire, mais on considère que c'est quelque chose qui nous a précédé, c'est quelque chose qui nous suivra. Et la Crause, donc, est un bien qui est destiné à l'univers, à tout le monde. La Crause appartient un peu à tout le monde. Alors, bien sûr, pour pouvoir en faire profiter les autres, il faut que nous ayons aussi des moments de paix et de recueillement et de travaux. Mais finalement, ouvrir, ça a le sens que, au fond, on livre la Crause à tout le monde en leur disant c'est un peu votre patrimoine.
Hop, nickel. Merci. Dimanche soir, la Crause a fermé ses portes. Le hameau va doucement passer l'hiver au calme dans les gorges pour revivre au printemps prochain.